écoutez Europe 1, il est 22h. C'est l'heure du journal, Isabelle Millet.
Bonsoir à tous, voici les titres de votre journal. 7 ans ferme, requis contre Patrick Balkany, avec inculpation immédiate, 4 ans avec sursis contre son épouse. Le chauffard de Lorient est toujours en cavale, sa passagère s'est rendue, mais elle ne veut rien dire. La Légion d'honneur pour les marins de la SNSM au Sable d'Olonne, mort en héros, a dit Emmanuel Macron, on sera sur place avec François Coulon. Une hausse de 200%, explosion l'an dernier de l'utilisation par les policiers, de lanceurs de balles de défense et de grenades de désencerclement. Deux pétroliers cibles d'une attaque en mer d'Oman aujourd'hui. Les États-Unis accusent l'Iran, les prix du pétrole grimpent. Et puis l'épreuve de philo du bac sera-t-elle perturbée par une grève des surveillants? La menace est dans l'air, on posera la question à la spécialiste éducation d'Europe 1, Virginie Salmen. Côté météo, la journée de demain sera orageuse avec de très gros écarts de température. Il fera jusqu'à 38 en Corse, 31 à Marseille, 25 à Strasbourg, 24 à Paris, 23 à Lille et Bourges, 21 à Caen et 17 seulement à Brest. Les prévisions complètes d'Elena Morna, ce sera à la fin de ce journal. Et puis comme chaque soir, 22h20, votre rendez-vous avec l'interview écho d'Emmanuel Duteil. Emmanuel reçoit ce soir le directeur exécutif de Lidl, Michel Biérot.
Europe 1.
Le procès Balkany, c'était donc aujourd'hui le deuxième réquisitoire contre le couple, cette fois dans le volet fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale. Chloé Triomphe, les procureurs se sont montrés extrêmement sévères à l'encontre de Patrick Balkany, en particulier 7 ans ferme requis.
Oui, exactement. Au terme de 3 heures de réquisitoire, après une démonstration détaillée du blanchiment, de ses mécanismes et de la corruption, les deux procureurs ont annoncé la couleur. Aucune complaisance n'est possible pour Patrick Balkany. Ils ont donc requis 7 ans de prison, ce que dénonce bien évidemment son avocat, Maître Dupont-Moretti.
J'ai vu depuis que je suis avocat des hommes condamnés à moins que ça pour des viols et même pour des crimes de sang. Balkany, il est ce qu'il est, il a fait ce qu'il a fait, mais on requiert 7 ans pour avoir dissimulé sa fraude fiscale. Et puis enfin, quand il aura pris une raclée judiciaire, parce que vous savez ce que je pense du procès, il va prendre une raclée fiscale. Il est ruiné. Bon, écoutez, au bout d'un moment, la justice au pied du mur de l'exemple, ça a ses limites.
Les deux procureurs ont aussi requis un mandat de dépôt à l'audience. Concrètement, ça signifie les menottes dans la salle et la prison directement le soir du jugement qui aura lieu vraisemblablement à l'automne. Mais d'ici là, ce sont évidemment les avocats de la défense qui vont plaider en début de semaine prochaine. On rappelle donc les réquisitions. 7 ans pour Patrick Balkany, 4 ans avec sursis pour Isabelle Balkany, son épouse, une simple amende pour leur fils et des peines de 2 ans de prison ferme pour les 3 autres co-prévenus.
Chloé Triomphe qui a suivi ce procès Balkany pour Europe 1. À Lorient, encore beaucoup de questions après l'interpellation de la passagère du chauffard qui a tué un garçon de 10 ans et en a blessé grièvement un autre de 7 ans dimanche. Elle s'est rendue hier soir, elle est en garde à vue mais dit ignorer où se trouve le conducteur qui est toujours bien sûr activement recherché. Elle affirme avoir passé ses 3 derniers jours seule dans un bois et on a en tout cas ce soir un peu plus de précisions sur son profil. Hélène Terzian.
Au terme d'une rapide conférence de presse devant des dizaines de journalistes, la procureure a d'abord retracé le parcours des deux fugitifs. Une cavale qui aura duré 3 jours pour la passagère. Elle, une jeune femme de 21 ans, interpellée hier soir à Caudan peu avant minuit, après s'être rendue chez un particulier qu'elle ne connaissait pas. Mais les conditions restent à éclaircir. À ce stade, on ne sait pas par exemple comment elle est arrivée dans cette commune voisine de Lorient où la passagère a été placée en garde à vue, notamment pour non-assistance à personne en danger. De moins de 15 ans. Elle encourt une peine de 7 ans de prison. Les enquêteurs continuent de l'entendre et pourraient prolonger sa garde à vue. Concernant le jeune homme de 20 ans toujours en fuite, il a déjà été condamné pour avoir conduit sans permis et pour usage de stupéfiants. Si l'appel à témoins diffusé n'a pas encore porté ses fruits, il donne lieu à de très nombreux appels, près d'une centaine par jour. Mais le chauffard reste introuvable, il est toujours activement recherché et la piste d'éventuels complices n'est pas exclue.
Hélène Terzian, envoyée spéciale d'Europe 1 à Lorient. 1 millier de personnes ont participé aujourd'hui à la marche blanche organisée en hommage au garçon de 10 ans tué dimanche et à son cousin de 7 ans qui est toujours hospitalisé grièvement blessé. Yann Chagnolo, Alain Guibert, Dimitri Moulic, ils sont morts en héros, a dit Emmanuel Macron qui a décoré aujourd'hui à titre posthume les 3 marins de la SNSM des Sables d'Olonne, François Coulon.
Effectivement, la nation pleure trois de ses enfants morts en héros parce que le sens qu'ils avaient donné à leur existence était de sauver la vie des autres, a salué le président de la République devant près de 3000 personnes, avant de décorer les trois cercueils recouverts du drapeau tricolore, élevant les sauveteurs au rang de chevalier de la Légion d'honneur à titre posthume, sous les yeux de Marie-Charlotte, proche des victimes.
C'était très très beau, c'était une reconnaissance pour eux, ils le méritent de toute façon et tous, mais nous c'est une grosse perte forcément, ça fait partie de notre famille, c'est des amis à nous qui ont perdu leur papa, et maintenant il va falloir qu'on soutienne les familles surtout.
Nous nous battrons pour faire vivre ce beau modèle solidaire du sauvetage en mer, a promis le chef de l'État devant 700 membres de la SNSM. Stéphane, sauveteur à l'île de Léron, demande à voir.
Les paroles, ça va bien, mais bon, maintenant on veut des actes, le renouvellement de nos bateaux. Nous, notre devoir, c'est d'aller chercher les gens en difficulté. On a du matériel vieillissant, on a besoin d'un coup de main de l'État pour la survie de la SNSM.
Voilà, on veut passer notre temps sur l'eau ou à se former et non plus à vendre des babioles pour payer nos vedettes. La requête des bénévoles de la SNSM est unanime ce soir.
François Coulon au Sable d'Olonne pour Europe 1. Une perquisition aujourd'hui au domicile de Carlos Ghosn. C'est dans le cadre de l'enquête sur le financement de son mariage fastueux au château de Versailles. À Bordeaux, l'unité d'hospitalisation d'urgence de l'hôpital Saint-André a été fermée aujourd'hui. Plus de la moitié des aides-soignantes et des infirmiers des urgences étaient en effet en arrêt maladie. Vous savez qu'un mouvement national a démarré il y a près de 3 mois. Il est suivi par 80 services d'urgence dans toute la France, avec des personnels donc qui se mettent en arrêt maladie. Dans un instant, la suite de votre journal sur Europe 1 avec le bilan des violences policières l'an dernier. La police des polices a fait les comptes. A tout de suite.
Le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Merci d'écouter Europe 1, il est 22h08 et c'est la suite de votre journal. L'IGPN, la police des polices, a publié aujourd'hui son bilan annuel. Guillaume Bié du service police-justice d'Europe 1, vous avez assisté à la présentation de ce bilan et forcément avec le contexte que l'on connaît, on imagine que le nombre d'enquêtes a considérablement augmenté.
Ah oui, évidemment, plus 9% pour le nombre d'enquêtes judiciaires en 2018, notamment en raison des plaintes déposées par des manifestants lors des samedis de mobilisation des Gilets jaunes. D'ailleurs, sur ces manifestations en particulier, 265 enquêtes judiciaires ont été ouvertes. Une centaine sont déjà bouclées. Elles ont été renvoyées entre les mains des procureurs qui les avaient ouvertes. Et on ne sait pas, on ne connaît pas le résultat puisque ces mêmes procureurs n'ont toujours pas communiqué sur le sujet. L'autre aspect marquant que souligne l'IGPN, l'explosion de l'usage des armes par les policiers l'an dernier, plus 200% pour les tirs de lanceurs de balles de défense, les LBD, plus 300% quasiment pour le nombre de grenades de désencerclement. Là encore, c'est l'impact direct des opérations de maintien de l'ordre autour du mouvement des Gilets jaunes, puisque l'essentiel de ces munitions ont été tirées à la fin de l'année dernière. Et puis le dernier aspect, c'est sur la méthode. L'IGPN explique que les enquêtes sur les policiers, elles sont longues parce qu'il y a énormément de paramètres à prendre en compte et qu'il ne suffit pas de s'arrêter à ce que quelques secondes de vidéo peuvent montrer, tout en insistant sur le fait qu'une action de police peut tout à fait être violente, mais qu'elle n'est pas forcément illégitime au regard du droit et du règlement.
Guillaume Bié du service police-justice d'Europe 1. Après avoir obtenu le vote de confiance de l'Assemblée hier, Édouard Philippe était aujourd'hui devant le Sénat, contrôlé par l'opposition de droite et qui s'est majoritairement abstenu. Rien à voir donc avec hier à l'Assemblée, Aurélie Herbemont.
Et oui, car c'est un peu deux salles, deux ambiances. Vous le savez, au Sénat, les marcheurs sont ultra minoritaires. C'est la droite qui domine. Résultat ce matin, 71 voix pour Édouard Philippe seulement, 93 contre. Et surtout, un succès de l'abstention. 181 sénateurs se sont abstenus. C'est énorme. Et c'est parce que les centristes ont pour beaucoup choisi l'abstention bienveillante. Certains socialistes n'ont pas voté contre non plus. Mais le gros des troupes abstentionnistes est venu de LR, pas moins de 132 abstentions. Pour beaucoup, il était difficile de voter contre un acte 2 qui prévoit une réforme des retraites, de l'assurance chômage ou encore un débat annuel sur l'immigration. Ce n'est pas un chèque en blanc pour le gouvernement, assurent les sénateurs de droite. Leur philosophie, c'est ni opposition systématique, ni adhésion automatique aux textes qui seront présentés par l'exécutif. L'exécutif, qui, je peux vous le dire, est ravi de ce résultat. Ils sont tous constructifs, ce marin ministre qui ajoute « la poutre travaille encore ». sport.
Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1. Finalement, Nathalie Loiseau ne briguera pas la présidence du groupe centriste au Parlement européen. La chef de file des eurodéputés La République En Marche retire sa candidature après des propos critiques à l'égard de ses alliés à Bruxelles, tandis que Marine Le Pen, elle, a échoué à constituer un super groupe nationaliste. Christine Lagarde se dit honorée de faire partie des noms évoqués pour prendre la tête de la prochaine Commission européenne pour succéder éventuellement à Jean-Claude Juncker. Mais la directrice générale du FMI assure que pour l'instant, elle est concentrée sur son mandat. Les chefs d'État et de gouvernement de l'UE se retrouvent la semaine prochaine à Bruxelles pour débattre de ces nominations. Le coup d'envoi du bac avec l'épreuve de la philo, l'une des plus redoutées par les candidats. Ça se rapproche, ça sera lundi à 8h. Et pour la première fois depuis 2003, est lancé un appel à la grève de la surveillance ce jour-là. Alors est-ce qu'il y a un vrai risque de grève lundi? Virginie Salmen, vous êtes la spécialiste éducation d'Europe 1.
Alors, sur l'ensemble des 4635 centres d'examen, le risque est assez minime parce qu'il y a énormément de professeurs, de personnel administratif qui peuvent assurer la surveillance des épreuves si ceux qui ont été convoqués sont effectivement en grève. Concrètement, le ministère a prévu un tiers de surveillants en plus dans les académies où ça bouge, Toulouse, Marseille, Créteil notamment. Localement, dans certains lycées, il y a même deux fois plus de personnel convoqué. Donc, il faudrait qu'il y ait vraiment beaucoup de grévistes pour que ces épreuves soient menacées. Pour l'instant, l'arme des réquisitions de personnel n'est pas à l'ordre du jour, mais si dans un lycée, il n'y avait pas assez de surveillants, eh bien, l'épreuve devrait être reportée quelques jours plus tard, mais rassurez-vous, ce risque est assez faible. Alors, le bac 2019 en chiffres, c'est le plus jeune candidat, âgé de seulement 11 ans. Un élève de très haut potentiel, vous l'imaginez, c'est probablement le plus jeune de l'histoire du bac en France. Le plus âgé a cette année 77 ans. Alors 54% des candidats passent le bac général, 21% passent le bac technologique et 25% le bac professionnel. Et puis il ne faut pas oublier ceux qui n'ont pas le bac ou qui ne passent pas le bac à l'âge de 18 ans. Ça représente tout de même un jeune sur cinq.
Eh bien, merci pour ces précisions. Virginie Salmen, spécialiste éducation d'Europe 1. Et on va évoquer maintenant ces attaques mystérieuses qui ont eu lieu ces dernières heures dans le golfe d'Oman. Deux navires en ont été la cible, deux pétroliers dans cette région déjà tendue à cause de la crise entre les États-Unis et l'Iran. Le golfe d'Oman, qui est un passage maritime stratégique à l'échelle mondiale. Ces attaques, on le verra, ont d'ailleurs immédiatement fait grimper les prix du pétrole. Jean-Sébastien Soleini, que s'est-il passé ?
Eh bien, le soleil se lève à peine ce matin sur le golfe d'Oman lorsque ces deux bateaux qui naviguent à quelques dizaines de kilomètres l'un de l'autre sont frappés à seulement une heure d'intervalle par des explosions. L'équipage du premier navire raconte avoir essuyer des tirs. Ils parlent aussi d'une brèche dans la coque au-dessus de la ligne de flottaison. L'autre bateau, pavillon des îles Marshall, aurait été touché par une torpille. Mais l'information n'est pas confirmée. Les équipages sont sains et saufs. 44 marins recueillis par la marine iranienne.
Alors Jean-Sébastien, cet incident n'est pas anodin. Ce détroit d'Ormuz est aujourd'hui un foyer de tensions géopolitiques.
Le détroit d'Ormuz, le golfe Persique, c'est à cet endroit que l'Iran fait face à l'Arabie Saoudite. Les deux pays se disputent le leadership régional et surtout l'Arabie Saoudite, c'est l'allié des États-Unis. Et vous savez que depuis un peu plus d'un an, depuis que Donald Trump a sèchement quitté l'accord sur le nucléaire iranien, les menaces sont régulières entre Washington et Téhéran. Du coup, la Maison-Blanche attribue ces incidents à des mines iraniennes, le même coupable désigné que lors du sabotage de quatre navires commerciaux en mai dernier, toujours dans la même zone. Ce détroit d'Ormuz où transite un tiers des exportations mondiales de pétrole et que la marine iranienne menace de fermer en réponse aux sanctions américaines. Alors avec ces attaques à répétition, il y a peut-être quelqu'un qui veut dissuader les navires commerciaux de passer par là.
Les précisions de Jean-Sébastien Soldaini. Ce soir, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo accuse l'Iran d'être responsable de ces attaques et on verra dans un instant avec Claire Lemaître de Boursier.com que ça a eu des incidences sur le baril de pétrole à New York. À Hong Kong, le bras de fer continue entre la rue et le pouvoir. Les manifestants annoncent une mobilisation géante dimanche contre le projet de loi controversé d'extradition vers la Chine. Plus d'un million de personnes s'étaient déjà rassemblées la semaine dernière. Un cousin du Diplodocus a fait un flop aux enchères. Il n'a pas trouvé preneur. Personne n'a voulu mettre 1 200 000 euros, prix minimum que réclamait son propriétaire pour ce squelette du Jurassique vieux de 150 millions d'années, trouvé par un groupe d'archéologues dans un ranch du Wyoming aux États-Unis. Il a même un petit nom, il s'appelle Skinny. Et puis notez que les handballeurs français se sont qualifiés pour l'Euro 2020 en s'imposant très largement en Lituanie. 37-17, les Bleus termineront les éliminatoires par un match sans enjeu contre la Roumanie. Ce sera dimanche à Nantes. Et on jette un œil sur la météo avec vous, Elena Morna. Orage, grêle, sirocco, chaleur, ce sont les mots pour demain.
Un sacré bouquet, hein, Isabelle. Alors, les premiers orages, ils grondent déjà en ce moment sur l'Aquitaine, remontent vers le Poitou-Charentes, le Limousin, le Centre, puis demain matin sur la région parisienne, la Champagne, les Ardennes. Les éclaircies reviendront quand même après le passage des orages. Alors, sur la Bretagne et le Cotentin, là, un ciel chargé, quelques averses, pas grand-chose. Et puis, notre deuxième séquence orageuse qui remonte, elle, des Baléares et s'étendra demain de l'Occitanie au Massif central, aux Alpes et Nord-Est. Localement de la grêle l'après-midi, surtout du côté de la Franche-Comté ou Alpes du Nord. Et puis, en région PACA et Corse, là, on aura un ciel, un soleil un peu palichon et puis surtout ce vent de sud-est, on appelle le sirocco, il est porteur d'air chaud et attention de sable qui remonte donc d'Afrique du Nord. Et quand je dis chaleur, hein, on s'approchera quand même des 40 degrés sur l'île de Beauté, 31 à Marseille, 30 à Nîmes, 25 à Strasbourg, 24 à Charleville-Mézières et Paris, 23 à Lille et Bourges, bon là c'est plus trop chaud à Nantes, Bordeaux, Toulouse et Lyon avec seulement 22 degrés, 19 à La Rochelle et Espelette, 17 à Brest. Alors attention, les orages vont se renforcer samedi entre le Massif central, les Alpes et le Nord-Est avec de fortes pluies ou de la grêle. Dimanche, ce sera plus calme avec un dégradé classique finalement nord-ouest-sud-est, à savoir nuageux au nord, soleil au sud. Et la semaine prochaine sera estivale, beau et chaud pour tout le monde.
Vivement la semaine prochaine, la météo signée Elena Morna. Europe 1. Dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Claire Lemaître de boursier.com, juste avant l'invité écho d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir le directeur exécutif de Lidl, Michel Biérot. A tout de suite sur Europe 1.
22h, 22h30, le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Et à 22h18 sur Europe 1, c'est l'heure de la bourse comme tous les soirs. Et c'est avec vous Claire Lemaître de boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Isabelle.
Et après deux séances de recul, la bourse de New York est repartie en hausse.
Oui, c'est le pétrole qui dope les marchés ce soir et toujours les espoirs de baisse des taux de la Fed. Le Dow Jones monte de 0,39%, 26 107 points. Et le Nasdaq gagne 0,57%, 7 837 points. Vous en parliez dans le journal. Le pétrole flambe après des attaques présumées contre deux pétroliers dans le golfe d'Oman, à l'entrée du golfe Persique. C'est un secteur très sensible où transite 30% du brut mondial transporté par mer. Si ce secteur devient dangereux, eh bien il peut ralentir l'approvisionnement de pétrole dans le monde entier, d'où cette remontée brutale des cours. Ce soir, le brut léger américain reprend 2,3% au-dessus de 52 dollars, mais il a grimpé jusqu'à 4% au cours de la séance. Bien sûr, ça dope les poids lourds du secteur. Chevron gagne 0,6%, ExxonMobil plus 0,9%. Halliburton plus 2,8%. Autre valeur en vue ce soir, Disney. Le groupe de médias profite d'une note positive de Morgan Stanley qui conseille d'acheter la valeur. Et puis du côté des devises, l'euro recule de 0,1%. On est à 1,1276$.
Et à Paris, Claire, la séance s'est déroulée aujourd'hui sans grande conviction.
Oui, le CAC 40 termine stable, quasiment stable, plus 0,01%, 5376 points. Renault gagne 1,1%. Jean-Dominique Senard a été conforté hier par les actionnaires du constructeur automobile. Ils ont ratifié à une écrasante majorité son entrée au conseil d'administration et donc sa reconduction en tant que président. Très belle séance aussi pour Soitec, plus 4,4%. Soitec, le fabricant de plaques de silicium pour semi-conducteurs, a fait état d'une forte hausse de son résultat opérationnel courant pour son exercice 2018-2019.
Et Thales également termine la séance dans le vert.
Thales qui a actualisé ses objectifs annuels de rentabilité opérationnelle et de prise de commande pour prendre en compte le rachat de Gemalto. Ça séduit les investisseurs puisque l'action monte de 1,4%. Les marchés européens ont terminé globalement dans le vert. Londres est stable, mais Francfort avance de 0,4%. Plus 0,1% pour Madrid, plus 0,8% pour Milan. Bruxelles recule de 0,2%. Et à Paris, le CAC 40 termine stable à 5376 points.
Merci beaucoup pour ce tour d'horizon très complet. Comme toujours, Claire Lemaître de boursier.com.
L'invité éco avec laposte.fr/pro. Démarquez-vous en imprimant vos timbres avec le logo de votre entreprise.
Emmanuel Duteil, vous recevez ce soir le directeur exécutif de Lidl.
Bonsoir Michel Biérot.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes l'un des directeurs de Lidl. Alors, Lidl a fait l'actualité il y a de ça quelques jours. Il y avait des queues énormes devant vos magasins. Pourquoi ? Parce que vous vendiez un dénommé Monsieur Cuisine, qui est le concurrent du fameux Thermomix. L'énorme avantage, c'est qu'il est 3 à 4 fois moins cher que ce fameux Thermomix. Vous en avez vendu combien ?
Beaucoup, Emmanuel.
Beaucoup, ça veut dire combien?
Non, on en a vendu plusieurs milliers, mais plusieurs dizaines de milliers, je peux dire même. Maintenant, je vais pas dévoiler le chiffre exact.
Pourquoi?
Juste par
c'est
rapport à la concurrence. C'est confidentiel. Vous savez, la concurrence est rude dans ce monde. Donc voilà, je ne dévoile pas le volume que j'avais.
Rassurez-moi, mais, vous avez organisé la rareté, vous avez fait
non,
votre appel.
Alors ça je vais tout de suite vous arrêter là-dessus, parce que ça m'énerve quand on en parle, d'organiser la rareté. On est commerçant.
C'est un bon commerçant qui fait ça.
Non, je ne suis pas d'accord du tout. Ce n'est pas Lidl qui fait ça. Un bon commerçant n'organise pas la rareté. Un bon commerçant est là pour satisfaire ses consommateurs. Parce que s'ils sont déçus, ils ne reviendront pas. Donc il va les perdre.
Donc vous allez me faire croire que vous avez été vous-même étonné par l'engouement ?
Mais bien évidemment, ça fait 4 ans maintenant qu'on vend un Monsieur Cuisine.
Qui déjà s'était arraché à l'époque.
Qui déjà, le premier en 2015. Mmh. Mais ensuite, on avait des volumes largement suffisants. Pour preuve, le dernier à Noël, on en a encore vendu au mois d'avril. Mmh. Celui de Noël, donc les volumes de Noël, j'en avais encore au mois d'avril. J'en ai pris beaucoup, beaucoup plus pour ce fameux 3 juin. Donc personne ne pouvait... Et en plus, il était vendu 130 euros plus cher. Donc personne ne pouvait imaginer...
Mais 3 fois moins cher que le Thermomix.
Mais et l'autre, 5 fois moins cher que Thermomix, si vous voulez comparer avec le Thermomix. Mais donc, personne ne pouvait imaginer cet engouement. D'autant plus que on a un volume qui est plus que suffisant, dans le sens où le volume est très important. La seule chose, c'est qu'on l'a réparti sur plusieurs semaines.
Pour préparer cette interview, j'ai regardé notamment les réseaux sociaux et les commentaires sur Internet. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'on leur a dit qu'il n'y avait plus de place même en liste d'attente.
Alors, je ne sais pas d'où sort cette information, mais elle ne vient pas de nous.
Je ne dis pas que ça vient de vous, mais des commentaires que j'ai pu lire.
Il y a un premier volume qui a été injecté, et il y avait d'autres volumes qui étaient déjà planifiés dès le départ. La seule inconnue de fait qu'on ne connaissait pas, c'était l'engouement le premier jour. Donc c'est vrai, ça a été un truc de dingue. Des gens se sont jetés sur le Monsieur Cuisine Connect à 359 euros, comme sur un fameux pot
de
pâte à tartiner. Comment ?
C'est le plus gros engouement de l'histoire de Lidl. Vous
n'avez
jamais
connu
ça ?
Un truc pareil. Je n'ai jamais vu une chose pareille. La dernière fois que j'ai vu des vidéos comme celle de Monsieur Cuisine, c'est quand un concurrent a vendu un pot de pâte à tartiner.
En l'occurrence, c'était Intermarché à l'époque et il s'est fait condamner pour ça.
Tout à fait. Mais c'est incroyable. Et là, on parle d'un produit à 359 euros. Donc tant mieux, j'ai envie de dire.
Comment vous expliquez qu'il puisse y avoir un tel engouement sur un tel produit ?
Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un site qui compare des téléphones, qui compare des appareils photo, qui a fait un comparatif
il y a plusieurs mois, qui
dit même qu'il est mieux que le Thermomix. Et c'est de là qu'est parti le fameux buzz, et derrière, ça a pris une ampleur qu'on a plus maîtrisée, quoi.
Et donc, vous commencez à avoir l'habitude. Alors, ce n'était pas en France, c'était en Grande-Bretagne. Vous avez aussi le whisky 8 ans d'âge, je crois, qui a été sacré comme le meilleur whisky qui est disponible sur le marché. Bon, a priori, il n'y a pas eu non plus le même engouement dans les magasins britanniques de Lidl.
Bah écoutez, faut croire qu'en France...
Parce que ce whisky n'est pas disponible en France, si nos auditeurs nous
écoutent. Bientôt.
Quand ?
Bientôt, dans quelques mois, là, j'en ai commandé plusieurs camions, donc il va bientôt être disponible en France également.
Mais bientôt, ça veut dire quoi ? D'ici l'été ?
Non, je pense pas,
parce
plutôt pour
pas
la
très
rentrée.
Longtemps qu'un camion arrive de Grande-Bretagne jusqu'à chez nous.
Il faut un peu plus longtemps pour le mettre en bouteille et pour le mettre dans des cartons,
mais
puis dans des palettes.
Vendu en France.
Il va être vendu en France.
Donc d'ici quelques mois.
Exactement. Donc pour en revenir au Monsieur Cuisine, personne ne pouvait prédire ce qui s'est passé. Maintenant, tant mieux pour nous, tant mieux pour tout le monde et tant mieux pour les consommateurs. Mais je pense qu'en France, aujourd'hui, des ménages français qui ont envie de cuisiner, parce qu'il y a le faire soi-même qui revient à la mode. Et ils se sont dit, c'est une occasion rêvée d'avoir un robot qui, en plus, est plébiscuité par plein de gens comme étant meilleur que le concurrent de la marque, pour 359 euros.
Le site Numérama, qui est un site qui compte aussi en termes d'informations autour de tous les produits tech, nous dit aujourd'hui que vos Monsieur Cuisine sont équipés de micros qui pourraient nous écouter. Mm-hmm. Vous nous espionnez à la maison ?
Comme dans votre voiture, Emmanuel, comme sur votre téléphone. Heureusement,
j'ai
un micro d'ailleurs.
Je n'ai pas emmené le mien pour l'interview.
Mais comme sur tout objet connecté. Oui, il y a un micro sur Monsieur Cuisine Connect.
Mais il m'espionne.
Parce que, comme son nom l'indique, il est connecté. Bien sûr que non, il ne vous espionne pas. Qu'est-ce que j'irais espionner la ménagère française ? Enfin, il faut m'expliquer quand même.
Savoir ce que j'achète pour avoir envie de le mettre encore plus en avant dans vos magasins.
Vraiment, ça me fait beaucoup rigoler, cette histoire autour de ce micro. Mais oui, il y a un micro. Je vais vous expliquer pourquoi il y a un micro. D'une, le micro, bien évidemment, Lidl ne peut pas l'activer à distance. Pas plus que la consommatrice.
Oui, parce que pour être précis, a priori, il n'est pas activé dans
Non, il
n'est
bien évidemment pas activé. Si vous voulez, la tablette de Monsieur Cuisine, c'est une tablette Android 6.0. Comme toute tablette, il y a un micro. Ce micro n'a pas été activé, ne peut pas être activé par Lidl à distance. C'est le consommateur qui doit l'activer. Et pardon, le site dont vous parlez, ce sont deux geeks professionnels, des informaticiens invétérés qui ont réussi à, effectivement, vu que c'est une tablette, ils ont réussi à rentrer dans le système d'exploitation de la tablette. Donc, j'invite n'importe quel consommateur à essayer d'activer le micro, c'est impossible. Non. Pour finir sur le micro, nous avons mis ce micro, pourquoi ? Parce que nous avons en tête qu'un jour, ce monsieur cuisine connecte, peut-être non seulement connecté, mais aussi dirigé par commande vocale, comme par exemple notre concurrent Moulinex, qui est aujourd'hui déjà dirigé par commande vocale. Thermomix va certainement l'être sur son nouveau. Donc oui, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, on va peut-être injecter une mise à jour sur le sur Monsieur Cuisine, pardon.
Vous en revenez vous aussi aux concurrents.
On va injecter une mise à jour pour que, là encore, le consommateur ait le choix d'activer ou non ce micro pour que demain, ce Monsieur Cuisine devienne un Monsieur Cuisine non seulement connecté, mais qui puisse être piloté par commande vocale.
Eh bien, un grand merci Michel Birou, l'un des directeurs de Lidl, d'avoir été notre invité ce soir. On se retrouve demain, 22h20 sur Europe 1.
Merci à vous Emmanuel Duteil.
C'était l'invité éco avec laposte.fr/pro. Démarquez-vous en imprimant vos timbres avec le logo de votre entreprise.
Dans un instant, on jette un œil sur les unes de vos quotidiens. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Et voici donc ce que vous découvrirez demain à la une de vos quotidiens. La photo du ministre de l'Intérieur est à la une du journal Libération avec ce titre « Violence policière ». Et si on parlait, monsieur Castaner, une hausse de plus de 200% de l'usage des LBD et des grenades de désencerclement, un record d'enquête. Les chiffres dévoilés ce jeudi par l'IGPN, la police des polices, confirment un usage sans précédent des armes de maintien de l'ordre l'an dernier. Comment Macron rabat les chasseurs ? C'est à la une cette fois de l'Opinion qui rappelle que le Parlement doit voter à la fin du mois de juin une réforme de la chasse française qui prévoit notamment la création d'un office unique de la biodiversité et qui renforcera la police de l'environnement notamment. Les passionnés de battue apprécient, paraît-il, beaucoup un chef de l'État qui a toujours su leur parler. Ce week-end, 3 ministres se rendront au Game Fair. C'est le plus grand rassemblement autour de la chasse en France qui accueille 80 000 visiteurs à La Motte-Beuvron dans le Loir-et-Cher. Pétrole, alerte et tension dans le Golfe, titre Les Échos. On l'évoquait tout à l'heure dans le journal et également avec Claire Lemaître dans la Bourse. L'attaque de navires pétroliers près du détroit d'Ormuz a fait bondir les cours, stoppant la chute de ces dernières semaines provoquée par la guerre commerciale. Les tensions entre l'Iran, l'Arabie Saoudite et les États-Unis inquiètent. Et puis à la une du journal La Croix, Afghanistan, la peur de l'abandon, l'éventuel retrait des troupes américaines pourrait plonger les Afghans dans un nouveau chaos. Voilà donc pour ce tour d'horizon rapide des unes de vos journaux que vous retrouverez demain matin dans vos kiosques. Et je vous souhaite une excellente soirée. À l'écoute d'Europe 1, vous êtes en compagnie de Sophie Peters pour la Libre Antenne. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Isabelle.
Je vous retrouve tout à l'heure Sophie dans moins d'une demi-heure.
Absolument.